Bienvenue et bel été à l'écoute d'Europe 1, midi 30, le journal complet de la mi-journée présenté par Adrien Beck. Bonjour Adrien.
Bonjour Fatima, bonjour à tous.
Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas d'hommes blessés, il n'y a pas de maisons détruites, donc le bilan est satisfaisant.
Bilan satisfaisant, mais vigilance encore en Ardèche, feu maîtrisé à Saint-Marcel-les-Annonay, mais le risque d'incendie reste très élevé dans toute la vallée du Rhône. Faut-il laisser les jeunes se contaminer au coronavirus? C'est l'idée d'un infectiologue et un nouveau débat dans la communauté médicale.
Espèce de cohorting avec l'infection des jeunes qui participerait à l'immunité collective. Intellectuellement, il est satisfaisant. En pratique, c'est extrêmement compliqué.
Et on vous expliquera pourquoi. Et à midi, notre invité sera Luc Duquesnel, médecin en Mayenne. On tentera de comprendre pourquoi l'épidémie recule si lentement là-bas. Une commission indépendante contre les violences sexuelles sur mineurs créée à l'automne, annonce du secrétaire d'État à la famille ce matin. Et puis, à peine blessé, déjà presque remis sur pied, prodigieux Kylian Mbappé.
Il est très bon professionnel, il est jeune, il travaille tous les jours, matin et après-midi, donc on peut être très, très tranquille.
Formidable, la star parisienne pourrait bien participer au quart de finale de la Ligue des Champions dans 10 jours.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un cocktail détonnant, chaleur et mistral. Voilà ce qui attend la vallée du Rhône pour aujourd'hui et les prochains jours. Hier, 70 hectares de pins ont brûlé à Saint-Marcel-les-Annonay, c'est dans le nord de l'Ardèche. 15 habitations ont dû être momentanément évacuées. Johanna Chabas, on vous retrouve sur place. Feu fixé ce matin, mais des pompiers toujours en alerte car le risque de reprise reste élevé.
Oui, 40 pompiers sont toujours sur place, partagés en deux groupes d'intervention. Ils inondent la zone pour noyer les possibles foyers du feu et empêcher toute reprise. Car ce qui inquiète, c'est le vent qui pourrait refaire partir l'incendie. Les soldats du feu vont surveiller la zone toute la journée. Mais le capitaine Jérôme Ployant estime déjà que le pire a été évité.
Ça peut être toujours pire, hein, parce qu'il y avait des habitations qui étaient menacées. Il a fallu en prendre en compte, c'était notre priorité. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas d'hommes blessés, il n'y a pas de maisons détruites. Le bilan est satisfaisant.
Un bilan satisfaisant, sauf pour la biodiversité. Des prés et des forêts ont brûlé. Sur la colline, il ne reste qu'une terre noire. Laurence Dumas, la maire de la commune, s'inquiète pour l'écosystème de la zone.
C'est des arbres qui sont partis, certainement des animaux chassés par le feu aussi. Il y a beaucoup d'oiseaux ici, il y a des chevreuils, il y a des sangliers, hélas aussi. Voilà, ça touche beaucoup les habitants et c'est un paysage de désolation. C'est ce que ça fait le feu, c'est noir, quoi. Donc ça laisse que du noir le feu.
Elle a surtout l'impression d'un terrible retour en arrière. En 2000, un incendie avait aussi ravagé la région. À l'époque, 1500 hectares avaient brûlé.
Merci Johanna Chabas en Ardèche pour Europe 1 et dans le Gard, plus au sud, au bord de l'autoroute A9. Feu maîtrisé également ce matin. 30 hectares ont été brûlés et deux pompiers blessés. Face au risque de départ de feu, la préfecture des Bouches-du-Rhône interdit ce matin l'accès à l'ensemble des massifs du département, notamment le parc national des Calanques. 100 à 200 pompiers arrivent en renfort dans le département et dans le Var, les massifs de la Sainte-Baume des Morts et de la Corniche des Morts sont placés en risque incendie très sévère. Avec toute la prudence de mise, bien sûr, on peut tout de même profiter du soleil, profiter des vacances. Et quand on vit à l'année à Bormes-les-Mimosas, l'un des hauts lieux du tourisme varois, on va à la plage tôt, avant les touristes. Marion Gauthier, c'est ce que vous avez fait ce matin?
Oui, Adrien, j'ai les pieds dans le sable de la plage de Brégançon. La mer face à moi, le fort à gauche, une petite brise et plein soleil. Et je peux vous dire que sur les serviettes, les peaux sont très bronzées. Je n'ai croisé presque que des Varois. Et d'ailleurs, sur le parking, il y a encore beaucoup de 83, le numéro d'immatriculation du département. Demain, ils auront probablement changé, lance en revanche Marianne.
On est venu aujourd'hui parce qu'en fait, après, on risque d'être envahi par les Aoussiens. Après le repas, là, quand on va revenir sur la plage, on va être les uns sur les autres. Par rapport au Covid, ça fait peur.
Et certains ont ainsi choisi de partir, tout simplement, comme Véronique et Yves, direction la montagne.
Aujourd'hui, 2 août 2020, dernier week-end pour nous à la plage. Là, on est venu tout exprès pour plonger, sans le monde. Après, on va revenir fin ou début septembre. Il y aura un petit peu moins de monde.
Oh ben, il faut que tout le monde profite. On laisse la place aux autres. On est gentil en Provence.
Allez, encore quelques heures de tranquillité pour les locaux en ce week-end si particulier du chassé-croisé et pendant que les nouveaux vacanciers s'installent.
Merci Marion Gauthier. Profitez bien de la belle plage de Cabasson. Les Aoussiens qui arrivent, donc on vient de l'entendre, les juilletistes qui repartent. Alors où sont-ils allés ces juilletistes? Premier bilan d'un été très particulier que nous dresse Vangelis Panayotis. Il est président de MKG Consulting, cabinet spécialisé dans le tourisme.
On a vu que la Bretagne s'en est très bien sortie, où ils ont quasiment fait des performances assez proches de celles de l'année dernière. Et on voit que le côté rural et montagne également. Tout ce qui a été location d'appartements ou de villas pendant le confinement, les Français ont plutôt réservé ce type d'établissement ou ce type d'hébergement parce qu'ils ont prévu de le faire en tribu, en famille ou entre personnes qui étaient en confinement. Très rapidement, ça s'est rempli très vite. Et c'est vrai que les hôtels, ça s'est plutôt fait à la dernière minute et principalement sur le littoral. Les campings ont plutôt fonctionné correctement parce que généralement, c'est une clientèle qui est plutôt française, qui en plus n'a pas besoin de prendre l'avion ou le train et peut utiliser ses moyens personnels comme la voiture pour se rendre sur ses lieux de vacances en famille. Également, les villages de vacances ont plutôt fonctionné pas trop mal. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que tout ce qui était insolite et plutôt du tourisme de niche, comme les camping-cars, comme le fluvial également, a plutôt tiré son épingle du jeu. Et les Français ont cherché des alternatives à leurs vacances traditionnelles.
Des propos recueillis par Mathieu Bock.
Europe 1, midi 36, Adrien Beck.
Ils suscitent bien des critiques pour leur imprudence réelle ou supposée face au coronavirus. Les jeunes veulent continuer à vivre et profiter de leur été malgré le Covid-19. Mais les 20-30 ans sont désormais ceux qui se contaminent le plus en France et pour cause.
Nous, ça n'a rien changé, Covid ou pas. Nous, on sort, on profite. Aucun changement, quoi. Voilà, Voilà, tout simplement, quoi. Passer du bon temps, justement, au cas où si en septembre ça reprend la deuxième vague, machin, bah, autant profiter vraiment à fond maintenant et on verra la suite plus tard.
Et si finalement ces comportements n'étaient pas si irresponsables, laissons les jeunes se contaminer entre eux. Ce sont les mots du professeur Éric Combes, chef du service d'infectiologie à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, ce matin dans Le Parisien. Alors Pierre Herbulot, comment comprendre cette recommandation?
En fait, l'arrière-pensée de l'infectiologue, c'est la fameuse immunité collective. L'idée que plus on est contaminé, plus on développe des anticorps. Ça voudrait dire des dizaines de potentiels regroupements de cas en moins à la rentrée, dans les facs, dans les lycées. Éric Combes précise, la condition sine qua non, c'est que ces jeunes restent à l'écart de leurs parents et de leurs grands-parents. Invité d'Ève Roger ce matin, son confrère Bruno Lina comprend la proposition, mais a des doutes sur la mise en pratique.
Théoriquement, c'est cette espèce de cohorting avec l'infection des jeunes qui participerait à l'immunité collective, il est intellectuellement, il est satisfaisant. En pratique, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut pas laisser partir cette épidémie. Et puis, il faut aussi, malgré tout, se méfier que parmi ces jeunes, même si le taux de forme très grave est relativement faible, il y en aura quand même. On conçoit intellectuellement la construction qu'Éric Combes propose, hein, qui est très bien, mais en pratique, après, ça risque d'être confronté à de la réalité de terrain qui rend cette hypothèse un petit peu compliquée.
Alors dans la profession, hein, tout le monde n'est pas aussi compréhensif. L'infectiologue Catherine Hill parle, elle, d'une très mauvaise idée, d'une théorie folle qui ne tient pas la route. Le problème, c'est que l'on court toujours après l'épidémie au lieu d'anticiper, se défend Éric Combes à nos confrères du Parisien, tout en reconnaissant que sa proposition est tout sauf politiquement correcte.
Une théorie qui fait débat, effectivement. Merci beaucoup, Pierre Herbulot. En Mayenne, 69 communes rendront le masque obligatoire dès demain. Alors qu'en est-il de la situation sanitaire sur place? Voilà un mois que les premières mesures ont été prises. On en parle avec notre invité dans moins de 10 minutes, le docteur Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne. C'est un sujet douloureux, souvent un tabou qui concernerait 4 millions de personnes en France, l'inceste. Le secrétaire d'État à l'enfance et à la famille, Adrien Taquet, annonce ce matin au Journal du Dimanche la création d'une commission sur les violences sexuelles faites aux enfants, Diane Berger.
En effet, 80% des violences sexuelles subies par les enfants ont lieu dans le cercle familial et le sujet est encore mal connu en France. Adrien Taquet en parle même comme du dernier des tabous. Et les cas peuvent prendre des formes très différentes, comme l'explique le docteur Walter Albardier du CRIAVS Île-de-France, le centre de ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles.
Des familles qui sont très fermées sur elles-mêmes, dans lesquelles finalement chacun se retrouve dans une forme de conflit de loyauté, une loi interne à la famille beaucoup plus importante que la loi externe. Parfois des familles dans lesquelles les relations sont très fusionnelles, sans distance. Puis on voit aussi des systèmes familiaux dans lesquels il y a un individu, que ce soit le père, la mère, le grand-père, qui est en position de toute puissance et de maîtrise totale des autres.
Alors, dans la pratique, ce nouvel organisme va s'inspirer de la commission Sauvé, Une initiative de l'Église catholique, elle-même confrontée de longue date à des scandales de pédophilie. L'organisation disposera de son propre budget, mais pour l'instant, il n'est pas précisé. Et elle comptera des magistrats, des médecins, des psychologues et des sociologues. Cette commission sera créée à l'automne, avant les États généraux de la protection de l'enfance, qui doit se tenir en novembre.
Les explications de Diane Berger. Ils toucheront la mer avant de toucher terre. Les deux astronautes américains de la capsule SpaceX sont attendus vers 21h heure française dans le golfe du Mexique, et ce malgré les risques d'ouragan. La capsule a quitté la station spatiale internationale dans la nuit. Les sports et ascenseur émotionnel pour les Parisiens. Rappelez-vous, il y a une semaine, inquiétude autour de la blessure à la cheville de la star Kylian Mbappé, touché par un joueur stéphanois. Et bien finalement, Julien Froment, il semble que l'attaquant récupère plus vite, et certains l'imaginent déjà sur la pelouse dans 10 jours pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Oui, il faut croire que Kylian Mbappé aime ça, déjouer les pronostics. Son absence avait été estimée par le club à 3 semaines, mais le Français pourrait revenir plus rapidement que prévu. Vendredi, déjà au Stade de France, lors de la finale de la Coupe de la Ligue, il est apparu lunettes de soleil sur le nez, costume impeccable et surtout aucune béquille pour reposer sa cheville endolorie. Même du côté de ses coéquipiers, on s'est voulu très optimiste. Le milieu de terrain, Ander Herrera.
Je pense qu'on est optimiste avec Kylian. On avoue qu'il peut marcher tranquillement. Il est très bon professionnel, il est jeune, il travaille tous les jours, matin et après-midi. Et donc on peut être très, très tranquille.
Alors rien n'est dû au hasard avec Kylian Mbappé. En plus de respecter à la lettre le protocole de soins, l'attaquant a pour lui sa jeunesse. Il a 21 ans, il est plus facile de récupérer pour ce genre de blessure. Résultat, selon nos confrères de l'équipe, il y a désormais 90% de chances pour que le kit de Bondy soit présent le 12 août prochain à Lisbonne pour affronter les Italiens de l'Atalanta Bergame.
Merci beaucoup Julien Froment. Il fait chaud en France, on l'a vu, et à tel point que les fermes pédagogiques ont décidé de déménager leurs animaux. Et oui, les bêtes sont aussi sensibles à la chaleur. Exemple à la bergerie d'Issy les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine qui s'est adaptée. Reportage Yasmina Katou.
Moutons, brebis et chèvres ont déménagé dans une prairie à 1 km de leur ferme urbaine. Cette petite transhumance est nécessaire pour trouver un peu de fraîcheur à l'ombre des arbres. Cécile vient de la ferme pour voir si les moutons résistent bien.
C'est ombragé, les animaux se posent généralement sur cette surface-là, histoire d'être un petit peu au frais. On change toutes les eaux. Ça peut être jusqu'à 3, 4 fois, 5 fois par jour s'il le faut. Parce qu'une eau, une fois qu'elle devient chaude, les animaux n'en ont pas envie. C'est comme pour nous, ça donne moins envie de boire de l'eau chaude, même si ça hydrate bien aussi.
À la ferme urbaine, les enclos en plein soleil sont presque tous vides, sauf ceux des cochons.
On leur a mis une petite piscine sur le côté pour qu'ils puissent se rafraîchir s'ils en ont envie.
Les lapins, eux, sont placés dans une pièce. Température intérieure, 24 degrés. Pour éviter la chaleur, Jennifer a fermé fenêtres et volets.
Leur poil est un poil qui est composé que de duvet. Donc il y a beaucoup de poils. Donc c'est brossage et toilettage régulier. Et sur notre lapin Angora, on peut parfois aller même jusqu'à la tondeuse pour vraiment la soulager de ce poil qui va vraiment être beaucoup trop lourd et trop chaud pour elle.
Pour leur bien-être, les lapins sortent quand même en extérieur, à la fraîche, très tôt le matin ou très tard le soir.
Et sur les routes en ce dimanche, ça roule évidemment mieux qu'hier. Journée encore orange ce lundi au niveau national, rouge dans le sud-ouest et dans le sud-est. Et ça bloque encore en vallée du Rhône et sur la 10 entre Tours et Bordeaux. La météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Et Valérie Darmon, dites-nous tout. On le sent un peu en cette mi-journée, on a l'impression que les températures sont en baisse.
Seule l'Ardèche et la Drôme restent en vigilance orange canicule jusqu'à aujourd'hui 16h. Pourquoi ? Parce que le pays est passé dans un flux d'ouest, d'où cet air bien moins chaud qui circule sur la France, mais aussi ce ciel nuageux ou voilé avec sur un bon quart nord-est de la France, c'est-à-dire Franche-Comté, Alsace, Massif Alpin et le Massif Central, des averses et même quelques orages. Cet après-midi, les éclaircies vont se développer, le risque d'ondes orageuses se replier sur l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, les Alpes-Maritimes, avant de s'atténuer ce soir. Sur le pourtour méditerranéen, la journée est chaude, ensoleillée, avec quelques nuages d'altitude, Mistral et Tramontane soufflent à 70 km/h. Sur le reste du pays, le ciel est plus variable, plus lumineux. Seul le piémont pyrénéen reste couvert avec des pluies intermittentes. Les maximales, elles sont encore comprises entre 29 et 34 de la moyenne vallée du Rhône aux Alpes du Sud et au pourtour méditerranéen, 37 dans le Var, sur le reste de la France, comprise entre 22 et 27.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, toujours plus de cas de coronavirus en Mayenne, un mois après les premières alertes. Alors comment le comprendre, comment l'expliquer ? Rendez-vous dans une minute avec le médecin mayennais Luc Duquesnel.
Bon dimanche à l'écoute d'Europe 1 à 12h45. La suite du journal d'Adrien Beck et vous recevez votre premier invité.
Et voilà un mois que la Mayenne inquiète. 135 cas de coronavirus dépistés en une semaine début juillet, 450 la semaine dernière, 1106 cas confirmés au total et entre 15 et 18 clusters suivis. Bonjour Luc Duquesnel.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste en Mayenne. Une nouvelle mesure d'abord va entrer en vigueur demain. C'est le port du masque obligatoire dans 69 communes du département. Est-ce que ça s'impose selon vous ?
Écoutez, donc c'est 69 communes, c'est à peu près 30% des communes du département, mais c'est quand même à peu près 70% de la population du département. Donc c'est pas anodin. Très clairement, ça veut dire quoi ? Alors que depuis le 13 juillet, une stratégie a été mise en place à l'échelon du département qui avait été de décider de tester les 300 000 habitants du département de la Mayenne. Donc le fait, voir la circulation aujourd'hui, vous l'avez rappelé, qui est toujours aussi importante dans notre département, trois semaines après la mise en place de cette stratégie, montre qu'elle est soit insuffisamment efficace ou qu'en tout cas, elle seule ne peut pas suffire à pouvoir limiter la circulation du virus. Très clairement, c'est une course contre la montre qui est engagée depuis un mois dans notre département. Et aujourd'hui, le virus court plus vite que nous.
Vous dites qu'on n'arrive pas à limiter la circulation du virus. J'aimerais comprendre ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il s'agit des tests ? Est-ce qu'on ne teste pas assez ? Est-ce qu'on ne teste pas assez vite, par exemple ?
Je crois que globalement, quand il a été décidé, on a mis en doute la capacité qu'on pouvait avoir à tester 300 000 habitants dans un temps restreint. Parce que si c'est testé 300 000 habitants sur trois mois, ça n'a aucun intérêt. Je dirais que déjà 15 jours après avoir testé des patients, ces patients peuvent s'avérer positifs et donc, entre autres, dans des lieux à risque, je pense entre autres aux abattoirs, mais pas seulement, c'est aussi répéter ces tests. Donc très clairement, on n'était pas en capacité de le faire. Et puis surtout, le fait de tester autant de personnes asymptomatiques fait que pour les patients qu'on a eus dans nos cabinets médicaux, qui eux étaient symptomatiques, pour lesquels on a prescrit des tests, et c'était encore le cas cette semaine, quand on prescrit un test, et donc le patient prend un rendez-vous avec le laboratoire, et on a des rendez-vous 4 à 5 jours après. Et parfois, il nous faut attendre 4 jours pour avoir le résultat du test. Ce qui veut dire que des patients, eux, symptomatiques, eh bien, parfois, on a les résultats que 9 jours ou 10 jours après la consultation. Et le risque, alors bien sûr, on demande à ces gens-là de rester confinés, mais ce n'est pas simple. Ce sont des adultes qui travaillent, font un arrêt de travail. J'ai eu le cas avec un enfant de 11 ans, j'ai fait un arrêt de travail pour les deux parents, je les ai confinés 10 jours. Ce n'est pas forcément acceptable, c'est un impact financier pour ces gens-là, ce n'est pas facile à respecter dans une période estivale où on reçoit de la famille. Donc voilà, c'est le fait que finalement, décider de tester toute la population du département, ça nous a empêché de prioriser les gens qui étaient à tester parce que ça embolisait tout le monde et d'ailleurs aussi les difficultés pour l'assurance maladie. Après ça, dans le cas de rechercher les cas contacts.
On va y revenir, Luc Duquesnel, simplement. Vous nous disiez on n'arrive pas à tester assez, mais pourtant on voit dans la presse, quand on regarde la presse, on voit il y a des drives piétons, il y a des drives pour les voitures, il y a beaucoup plus, semble-t-il, d'efforts qui ont été faits. Ça reste malgré tout insuffisant.
Mais c'est-à-dire que ce qu'il faudrait déjà, c'est que les gens qu'il faut absolument tester, soit qui sont dans des endroits à risque ou qui les patients qui sont symptomatiques qu'on a dans nos cabinets médicaux, bien ces patients-là, un, il faudrait les tester dans la journée, deux, il faudrait avoir les résultats sous 24 heures et non pas attendre 10 jours entre le rendez-vous pour le test et tout, parce que les laboratoires ne sont pas en capacité d'accueillir toutes les personnes qui demandent un rendez-vous pour un test, puisqu'aujourd'hui, oui, en effet, beaucoup de gens, 80%, 90% des gens testés sont asymptomatiques, mais ils embolisent aussi bien les laboratoires, les préleveurs, que aussi ceux qui analysent les tests.
En fait, il n'y a pas eu un ciblage suffisant, c'est ce que vous nous dites.
Tout à fait, parce qu'on n'était pas en capacité de tester en 15 jours 300 000 habitants. Ça, c'était pas possible. Voilà, donc ça remet en cause un peu la stratégie qui avait été arrêtée début juillet par le ministère de la Santé au niveau de notre département. Raison pour laquelle, on le voit, les mesures de distanciation sont des mesures qui sont importantes. Après ça, il faut qu'elles soient acceptées par la population. Ce n'est pas forcément facile. On a vu ce qui s'est passé à Berlin hier avec 17 000 personnes qui manifestent contre le masque. Et puis aussi, quand on prend des mesures, il faut être en capacité de les faire appliquer. Or, au départ, les mesures préfectorales qui ont été prises, c'était, on disait, dans les centres-villes, le port du masque est obligatoire. Mais c'est le centre-ville, il commence où, il arrête où. Les décisions, la décision préfectorale qui s'applique à partir de demain, c'est là, c'est les communes, ben, c'est à partir du moment où je rentre dans la commune. Et donc là, je dois porter mon masque. Voilà, je crois que là, on est dans une protection collective. On a une période où on va retrouver les jeunes, les parents vont retrouver les grands-parents. On n'a pas eu de réunion de famille depuis Noël. Et que là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus, qui sont asymptomatiques, les mesures de distanciation doivent être respectées.
Santé publique France reconnaît qu'en Mayenne, deux clusters donnent lieu à ce qu'on appelle une diffusion communautaire. Autrement dit, on peut comprendre qu'ils ne sont plus vraiment maîtrisés. Comment on l'explique ? Vous parliez du tracing tout à l'heure. Là encore, il y a des trous dans la raquette.
Il y a des trous dans la raquette parce que je dirais qu'au départ, on a pris du retard. Lorsqu'on a identifié des cas dans des abattoirs, entre autres, soit parce que ces établissements étaient opposés à ce qu'on réalise des tests ou ont imposé des délais de 7 jours pour réaliser des tests, ça a mis trop de temps. Et on a vu des salariés qui ont été à un baptême, d'autres qui ont été à un match de foot organisé et finalement qui ont contaminé d'autres personnes. Et à un moment, bien, je veux dire, on n'arrive plus à remonter la chaîne. Et d'ailleurs, le nord du département, qui jusque-là était relativement épargné, s'est trouvé aussi avec des personnes contaminées par ces gens qui travaillaient dans des abattoirs. Et puis après ça, ben voilà, vous venez dans un foyer de jeunes travailleurs, vous allez contaminer des personnes. C'est aussi les lieux de précarité. Quand vous dormez assis dans une chambre, vous avez plus de risques de contaminer d'autres personnes que quand vous êtes seul dans votre chambre.
Et en cas de perte de contrôle, est-ce qu'il n'y a pas le risque que cette épidémie, pour l'instant à peu près circonscrite à un département, au fond, fasse tache d'huile à d'autres départements?
De toute façon, on le voit déjà dans d'autres départements. On l'a vu les semaines qui précèdent. On l'a vu dans le Finistère. On a même un autre département de la région. On voit les taux qui augmentent. On l'a vu dans d'autres régions de France, en Gironde. Là, très clairement, ce qu'on est en train de vivre depuis un mois en Mayenne, d'autres départements vont le vivre. Et c'est d'ailleurs, c'est presque expérimental ce qu'on tente en Mayenne. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce virus, on a tout à apprendre de ce virus. Et que la meilleure stratégie aujourd'hui pour limiter sa circulation, on ne l'a toujours pas. Alors après, il faut aussi positiver. Il y a peu de formes graves, peu d'hospitalisations. Actuellement, on n'a pas de patients en réanimation dans le département. Donc voilà, c'est un ensemble de facteurs et c'est quand même insister sur les mesures de distanciation, sur le port du masque, c'est un des moyens, il n'est pas suffisant, mais il est nécessaire pour éviter la circulation du virus.
Vous parliez presque du caractère expérimental qu'a pu revêtir la Mayenne. Beaucoup l'ont dit, la Mayenne sera un peu le test grandeur nature pour voir ce que l'on va connaître ensuite dans d'autres départements. Un mois après, on a l'impression que le test n'est pas très concluant.
Tout à fait, mais je vous dis, mais de la même façon que moi, quand je reprends les différentes déclarations officielles, au mois de janvier, on disait que le masque, il servait à rien, que quand on n'était pas malade, ça servait à rien, puis aujourd'hui, on vous dit qu'il faut porter le masque. Bon, voilà, donc on évolue, et puis en fonction de, aussi, parfois, quand on prend des décisions, comme le fait de décider de tester toute la population du département, bah, faut s'assurer d'être en mesure de le faire, et très clairement, en Mayenne, on n'est pas en mesure de pouvoir tester 300 000 habitants dans le département de la Mayenne.
Luc Ducanel, une dernière question, parce que c'est un peu le débat qui monte en ce dimanche. Laissons les jeunes se contaminer entre eux, c'est la préconisation du professeur Éric Combe de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne idée?
Je pense que c'est une fausse bonne idée pour au moins deux raisons. Première raison, c'est que ces jeunes, on croit toujours que les jeunes, finalement, sont à l'abri de toute complication et tout. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, on a eu des formes sévères chez les jeunes, moins que chez les personnes âgées, mais on en a eu. Et on se rappelle tous aux États-Unis ce qui s'est passé avec des regroupements de jeunes asymptomatiques avec un ou deux personnes contaminées. Bon, on a des jeunes qui sont décédés. C'est la première chose. Deuxième chose, ces jeunes, s'ils se contaminent, même s'ils sont asymptomatiques, ils vont retourner voir leurs parents qui sont peut-être des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qu'ils vont contaminer. Et ces professionnels de santé vont retourner dans des établissements et risquer de contaminer des personnes malades, des patients. Et puis ensuite, dans ces réunions de famille, quand on va retrouver papy et mamie qu'on n'a pas vu depuis Noël, très clairement, personne n'a envie de contaminer ces personnes âgées. Donc je crois que c'est une fausse bonne idée de dire bah, « écoutez, les jeunes, allez-y, il n'y a aucun problème, vous allez vous contaminer, vous ne serez pas malade ». Non, je pense que c'est une fausse bonne idée.
Merci beaucoup, docteur Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne et président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bon dimanche.
Au revoir.
Il est midi 55 sur Europe 1. On passe à la chronique juridique « Ai-je le droit ?» avec notre homme de loi préféré, Roland Pérez, Adrien Beck.
Bonjour Roland.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
On continue comme chaque week-end à explorer nos droits dans les situations estivales les plus courantes de la vie. Et vous nous dites en ce dimanche que oui, on a bien des droits si on va au café, si on va au restaurant. Premier exemple, allons sur une terrasse de café. Alors on peut s'en douter, mais le cafetier n'a bien sûr pas tous les droits.
Oui, absolument, et on ne le sait pas toujours Adrien. Et puis surtout, on n'ose pas dégainer le code de la consommation. Alors quelques exemples d'exigences du consommateur parfaitement légales. Prendre juste un café en terrasse alors que vous êtes seul ne peut pas vous être refusé. Un serveur doit accéder à votre demande de changement de consommation si elle n'est pas à votre goût, par exemple pas assez fraîche ou pas assez chaude. Le cafetier doit également dédommager un client si le vêtement a été taché par la maladresse du serveur ou s'il a été blessé ou intoxiqué parce qu'il lui a été servi.
Alors en revanche, nous dites-vous Roland, il y a des droits qu'on peut penser avoir mais qui n'en sont pas.
Oui. Le cafetier peut refuser à un passant non consommateur d'accéder aux toilettes ou encore de fournir un verre d'eau gratuitement à quelqu'un qui n'entend pas consommer. Alors la période de forte chaleur, c'est un petit peu délicat. Enfin, les boissons servies en bouteille doivent être débouchées ou ouvertes en présence d'un client obligatoirement. Et question prix, l'affichage du coût des consommations doit être affiché à l'extérieur et à l'intérieur des établissements.
Et j'imagine que pour les restaurants, les droits, les obligations des restaurateurs et clients sont à peu près les mêmes que pour les cafés.
Oui, quasiment, en étant en droit, par exemple, là aussi, de demander le remplacement d'un plat qui n'est pas frais ou non conforme à des descriptions dans le menu ou insuffisamment chaud. Même chose, évidemment, pour un vin bouchonné, on s'en doute. Manger seul ne doit pas vous empêcher d'accéder à une table pour deux ou même avec des enfants qui ne mangeront pas ou très peu. Et si le professionnel s'y opposait, le code pénal a dans ce cas prévu qu'il puisse être poursuivi pour discrimination avec à la clé une peine de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Enfin, sachez que le restaurateur, en revanche, n'est pas tenu d'accepter les animaux.
Alors, imaginons, Roland, que le serveur me renverse une bouteille de vin sur ma chemise neuve avant de m'intoxiquer avec une salade de fruits de mer. Il y a peut-être litige. À qui je m'adresse dans ce cas-là?
Alors déjà, c'est vraiment pas de chance pour vous.
Non, vraiment pas.
Et puis, la deuxième chose, c'est de voir déjà avec l'assureur du cafetier, l'assureur du restaurateur, voir s'il y a un accord possible. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez saisir la Direction départementale de la protection de la population, la fameuse DDPP, qui est en préfecture et qui peut être saisie même si son cœur d'intervention concerne plus précisément, on le sait, l'hygiène et la conservation des aliments ou encore de fausses mentions valorisantes sur l'origine des produits.
Eh bien, avec nous, ce n'est pas utile de partir avec le code de la consommation sous le bras puisque on a Roland Pérez. Merci Roland, bon dimanche.
Merci, à la semaine prochaine.
La météo des plages, Valérie Darmon, et on commence avec vous d'abord par l'océan.
Alors sur l'arc atlantique, le ciel est plus ou moins nuageux ou plus ou moins ensoleillé, tout dépend de quel point de vue on se place, avec des valeurs entre 20 à l'Orient et 23 à Biarritz, quasi même température de l'eau pour un océan assez peu agité, entre 18 dans le Finistère Sud et 23 justement sur la côte basque. Plus ou moins de nuages également le long de la Manche et en mer du Nord, avec des valeurs à peu près similaires dans l'eau et de l'air, entre 19 à Cherbourg et 23 à Saint-Malo, pour une Manche très très calme, entre 17 et 20 degrés également. Très beau temps et c'est là que vous êtes privilégié ce jour sur le pourtour méditerranéen avec des valeurs sur vos plages entre 33 et 34 degrés, 33 pour le Cap d'Agde, de 34 à hier. Une eau qui se réchauffe chaque jour davantage, entre 24 en Roussillon ou encore dans l'Hérault et 27 degrés pour les Alpes-Maritimes. Attention aux rafales de vent dans le Var. Le Var où l'eau est à 26.
26, 27, on commence à pouvoir se baigner, n'est-ce pas Fatima?
Ah oui, largement, là, ça y est, c'est la bonne température.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Merci Adrien Beck, restez avec nous dans un instant sur Europe 1, les carnets du monde avec Sophie Larmoyer. Europe 1.